place publique.
Comment éliminer le deal de cocaïne dans la rue, tandis que les autorités lausannoises tentent de rassurer la population avec davantage de répression? Nous verrons quelle est la recette neuchâteloise qui a depuis plusieurs années permis d'éloigner les trafiquants du centre-ville. Le féminin, un point c'est tout, c'est le parti pris de l'université de Neuchâtel dans ses statuts adoptés le mois dernier. Les articles font mention de la rectrice, l'adjointe ou d'une professeure, même si c'est d'hommes dont il s'agit. Nous verrons si ce choix radical a des fondements dans l'histoire de la langue française. Enfin, le Jura bernois croit en son avenir, en témoigne la réflexion stratégique Vision 2030, engagée récemment par les milieux économiques et qui fédère tous les acteurs importants de cette région. On en parle en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. Des trafiquants de cocaïne qui battent le pavé impunément ou qui abordent des ados sur le chemin de l'école. Des scènes quotidiennes vécues dans certains quartiers de Lausanne. De quoi excéder une partie de la population qui l'a fait savoir récemment en manifestant ou par la voix du réalisateur Fernand Melgar. En réaction, les autorités municipales ont accéléré la mise en place de mesures de lutte contre la présence des dealers dans la rue. Des mesures dévoilées hier. Mais Lausanne n'est pas la seule ville de Suisse romande concernée. Neuchâtel a elle aussi été confrontée à la vente ostentatoire de boulettes de cocaïne. Alors pour lutter contre ce phénomène, les autorités neuchâteloises ont mis en place depuis plusieurs années un dispositif baptisé d'abord Promesse, puis Narco, lequel a permis de faire baisser drastiquement la présence de ce trafic à ciel ouvert. Alors pour en parler, on reçoit Pierre Aubert. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes le procureur général du canton de Neuchâtel. Avec vous, on va voir quels sont les enseignements de la méthode neuchâteloise. Alors, l'une des premières mesures incontournables, et Lausanne n'y échappe pas, c'est bien sûr de renforcer la présence policière dans les endroits sensibles.
Oui, bien sûr, le trafic de rue se développe de manière sauvage en fonction des possibilités de l'offre et de la demande. Vous avez parlé tout à l'heure des manifestations des commerçants lausannois dans le canton de Neuchâtel et à Neuchâtel-Ville en particulier. C'est aussi notre baromètre. Alors, ils n'ont pas manifesté, mais ils s'expriment. Et on peut mesurer par leur expression si le trafic de rue est plus ou moins maîtrisé. Et évidemment, la maîtrise passerait soit par une diminution drastique de la demande, mais c'est un problème de société, soit plus superficiellement par une présence policière qui gêne le trafic et qui incite les gens à se rendre dans d'autres endroits pour faire leurs affaires.
Vous lâchez le mot, vous parlez de mesures quasi superficielles, ça veut dire que ça ne suffit pas. Il faut que toute la chaîne pénale réponde présent, pas seulement les policiers, mais aussi la justice et aussi le service pénitentiaire.
Alors, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, comme le rapportait récemment dans un autre poste de radio mon collègue Feutz. Les actions de la police, de la justice, aussi efficaces qu'elles puissent être, aussi bien organisées, ne font que survoler ce phénomène de société qui est un phénomène profond. Mais pour être efficace, au moins en superficie, il faut qu'il soit harmonisé et qu'à l'intervention de la police suive l'intervention de la justice et finalement de l'exécution des peines, et c'est ce en quoi peut-être le système narco se distingue de ce qui se passe dans d'autres cantons, aussi parce que notre taille nous permet d'avoir des relations plus faciles entre services concernés.
Alors, cette année, la police neuchâteloise rappelait que le dispositif narco a permis de dénoncer l'année dernière 225 personnes de différentes nationalités. C'est-à-dire que depuis l'instauration de narco, on est tenté de dire que le nombre n'a pas vraiment évolué, il reste toujours élevé. Ça veut dire quoi? C'est que d'année en année, cette action ne permet pas d'endiguer un peu plus profondément le phénomène.
Alors, toujours sur le baromètre des commerçants, il semble quand même que la situation s'améliore. L'un des responsables de la brigade des stupéfiants me disait que les toxicomanes eux-mêmes reconnaissent qu'il est plus difficile de s'approvisionner, ce qui est aussi un facteur à ses objectifs.
Et le nombre de dénonciations, lui, reste assez élevé?
Alors ensuite, le nombre de dénonciations, il peut dépendre de l'évolution des pratiques. Effectivement, s'il reste stable, c'est le signe que le phénomène a tendance à se renouveler naturellement. Ça veut aussi dire que le phénomène est endigué, c'est-à-dire qu'il ne croit pas ce qui est le développement naturel d'un trafic de rue. On l'a vu dans le passé, dans des cantons plus libéraux comme Berne ou Zurich, ce que peut donner un trafic de rue non maîtrisé du tout. C'est la rue, au fond, est totalement prise par les trafiquants.
Et les retours de commerçants sont donc positifs, montrent que le phénomène a drastiquement diminué. Donc si le trafic n'est plus visible dans la rue, est-ce pour autant qu'il diminue ou que la demande baisse? Comment opèrent dorénavant les dealers, puisque ça n'a pas disparu?
Alors, je pense quand même qu'il est arrivé à plusieurs reprises que des gens qui auraient souhaité consommer de la cocaïne n'en trouvent pas. Donc ça, c'est des consommations qui n'ont pas lieu. Et c'est tout bénéfice pour la santé publique et pour la santé des intéressés. Maintenant, évidemment, les trafiquants ne sont pas rentrés chez eux désespérés. Ils ont mis au point d'autres techniques. Ils se rendent à domicile. Autrefois, il y a une trentaine d'années, il était assez fréquent que ça se fasse dans les établissements publics. Quelques établissements de Neuchâtel étaient connus comme étant fréquentés par des trafiquants et des consommateurs. Ça n'est plus arrivé depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Donc, c'est un phénomène qui a disparu clairement, momentanément en tout cas. Le phénomène des rues aussi, et si on ne peut pas empêcher absolument le trafic de se poursuivre, il est quand même plus sain qu'il ne se dévoile pas au grand jour, avec ce sentiment qu'ont et les trafiquants et le public que cela se fait impunément.
Est-ce que c'est pas faire courir plus de risques aux consommateurs?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'achat dans la rue soit beaucoup plus sûr que l'achat à domicile.
Est-ce que c'est par contre une manière évidente de ne pas créer de nouveaux adeptes, de ne pas tenter certaines personnes? On l'entendait du côté de Lausanne, les dealers allaient jusqu'à aborder les gens dans la rue.
Oui, donc ça s'est aussi fait à Neuchâtel. J'ai un ami qui pourtant est professeur et avocat, mais qui a l'air plus jeune que ce qu'il est en réalité, qui me disait qu'un temps, il ne pouvait pas traverser la rue du Seillon sans se faire aborder à quelques reprises. Alors évidemment, c'est pas ça qui va décider quelqu'un à consommer, mais ça peut éveiller des curiosités. En tout cas, ça banalise un fait qui ne doit pas être banalisé.
Donc autant le faire disparaître de la vue de tous. Dernière question, Pierre Aubert, on le voit, c'est un rocher décisif, cette lutte contre le deal de rue, contre le deal lui-même. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage légaliser les drogues, même dures? Quel est votre point de vue, vous qui êtes confronté depuis plusieurs années dans l'exercice de votre métier à ce milieu, à cette réalité?
Alors, je dirais quand même que, sans pouvoir dire quelle est la cause et quel est l'effet, le fait que la consommation et le trafic soient punis globalement moins sévèrement, je me rappelle que ma première affaire, en 1989, portait sur une trentaine de grammes d'héroïne, que je m'étais déplacé personnellement en Espagne pour une commission rogatoire et que le prévenu avait été traduit devant la cour d'assises. Ce qui maintenant nous ferait rigoler. Donc le fait que la pression pénale ait diminué a été accompagné d'une augmentation de la consommation et du trafic. Les gens consomment plus maintenant qu'ils ne consommaient avant. Alors est-ce que on a diminué la pression parce que de toute façon ils consommaient plus ou l'inverse, c'est difficile à dire, mais c'est certain qu'une pression pénale diminue la consommation et ces produits-là sont dangereux, qu'il s'agisse du cannabis, de la méthamphétamine, de la cocaïne, de l'héroïne. Tous ces produits présentent un danger pour le développement du caractère et pour beaucoup d'entre eux pour la santé mentale.
Pierre Aubert, merci d'être venu nous faire part de votre éclairage. Vous êtes donc procureur général du canton de Neuchâtel. Vous êtes venu nous parler du dispositif Narco qui a permis donc d'endiguer le deal de rue, sa visibilité. On vous souhaite évidemment une bonne soirée et à bientôt dans Place Publique.
Place Publique. Gabriel Devecq.
L'université de Neuchâtel a osé le féminin pour ses nouveaux statuts. Elle a banni le masculin pour qualifier les fonctions de ses membres. Désormais, le règlement ne parle plus que de rectrice, de doyenne ou encore de membre élu. La démarche adoptée par l'Assemblée de l'université est entrée en force le mois dernier. Elle vise à susciter le débat et à faire réfléchir autour de l'égalité des sexes et des genres. Pour en parler, nous recevons monsieur la professeure de littérature française médiévale aux universités de Lausanne et Neuchâtel, Alain Corbellari, j'en souris. Bonsoir.
Bonsoir. Alors je précise que je suis la professeure à Neuchâtel, mais je suis bien le professeur à Lausanne.
D'accord. C'est pas difficile à vivre ça au niveau de
l'identité? Non, pas du tout. Je pense que je vais essayer de toute façon de dire des choses ici qui ne feront pas de peine à madame la rectrice Stoffel, mais Ça se vit.
Très bien. Plus sérieusement, les tenants de cette féminisation invoquent l'argument historique. Et c'est de ça dont on va parler. Le masculin, apparemment, n'a pas toujours été tout puissant dans la langue française. Qu'en est-il, vous, le spécialiste, justement, de littérature française médiévale, notamment, quand on se plonge dans les textes, est-ce qu'on voit que le masculin générique n'a pas toujours été la règle ?
Alors, effectivement, on voit que le masculin ne l'emporte pas toujours. Je n'ai pas trouvé d'exemple de féminin générique, mais c'est vrai que normalement un adjectif s'accorde quand il y a plusieurs sujets avec le sujet le plus proche, et que le verbe aussi s'accorde avec un des sujets, et donc on peut avoir un verbe au singulier pour un double sujet.
Donc on aurait pu écrire plus simplement, par exemple, le garçon et sa voisine sont partantes pour aller se promener.
Par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Ceux qui veulent nous faire croire que la langue classique a définitivement aboli cela, eh bien, peuvent aller voir chez Racine. Racine, Iphigénie, acte 3, scène 5. Mais le fer, le flambeau, la flamme, est toute prête.
D'accord, donc le féminin aussi a quand même sa place dans la grammaire et peut être prépondérant selon la place du mot.
S'il est suffisamment proche du verbe ou de l'adjectif, eh bien c'est lui qui va déterminer le genre.
Alors comment Alain Corbellari expliquait que le masculin l'ait emporté autour du XVIe, XVIIe siècle, notamment apparemment sous l'impulsion de l'Académie française qui aurait aussi, entend-on, supprimé certains termes féminisant les métiers par exemple?
Alors ça c'est même plus ancien. On peut montrer que dès la fin du 15e, début du 16e siècle, la féminisation des noms de métiers est en grande régression, à cause en particulier des statuts qui interdisent de plus en plus aux femmes d'occuper certaines professions. Donc s'il n'y a plus de femmes, plus d'intérêt à utiliser ces mots. Mais ces mots sont extrêmement courants pendant tout le Moyen-Âge. J'ai ici un texte qui parle des apprentis, ce qui est une façon assez subtile de faire un féminin. On parle évidemment des mirgès. Le mir, c'est le médecin, donc la mirgès, c'est la femme médecin. Comme il y en avait beaucoup au 11e, 12e, un peu 13e siècle, et comme elles ont fini par disparaître. Et puis on a quand même la figure de la grande féministe du début du 15e siècle, Christine de Pizan, qui se disait clergesse.
D'accord, donc il existe des appellations féminines de métier pour traduire que la fonction est occupée par une femme, et cela disparaît au fur et à mesure des siècles pour laisser place au masculin, et ça vous le reconnaissez, c'est pour quelque part affirmer quand même la domination masculine dans la société.
Oui, et c'est aussi, il y a quand même aussi une raison linguistique, c'est-à-dire qu'à partir du XVIe siècle, surtout sous l'influence de l'imprimerie, il y a énormément de débats sur l'orthographe, sur la grammaire, sur la langue en général, et il y a une tendance à la simplification. Et évidemment, je ne dis pas que cela est prépondérant, il y a le double aspect politique et linguistique, mais cette tendance à la simplification va évidemment dans le sens des hommes, puisque souvent la forme non marquée, la forme qui n'a pas de E, est la forme masculine. Et donc, assez vite, on amalgame les deux raisons pour trouver logique, comme le pensent encore beaucoup d'amoureux de la langue française d'aujourd'hui, que le nom marqué puisse l'emporter. Mais évidemment, là, on est dans quelque chose. Est-ce que c'est le nom marqué ou est-ce que c'est le masculin ?
Par contre, on n'assiste pas à des formes vraiment féminines pour dire le tout.
Non, mais le Moyen-Âge aime énormément, d'abord il aime beaucoup les adjectifs épicènes, il y en a beaucoup plus qu'en français moderne, et puis il aime énormément les formules inclusives. Tous et toutes étaient contentes, ou bien toutes et toutes étaient contents. Ou bien chacun et chacune. C'est des formules très littéraires, mais c'est toujours des façons d'inclure tout le monde. Alors, il y en a pour tous les goûts, il y a les malades et les bien portants, les sages et les fous, les hommes et les femmes.
Donc ça, c'est pas un toc du 21e siècle, ou une volonté politique récente. C'est quelque chose qui existait déjà bien auparavant. Mais comment expliquer ce masculin universel, par exemple, qu'on entend régulièrement, notamment dans l'actualité, quand on parle de la Cour européenne des droits de l'homme, la déclaration évidemment des droits de l'homme? Pourquoi l'homme, rappelez-nous, a cette fonction universelle de représenter aussi la femme?
Comme je le disais tout à l'heure, bon, il y a d'abord évidemment une certaine misogynie qui est là derrière, c'est évident, mais il y a aussi le fait que souvent les formes masculines dans les adjectifs, par exemple, ne sont pas marquées. Donc, ça pousse à utiliser plutôt les formes masculines. Maintenant, évidemment, entre homme d'un côté, femme de l'autre, on ne peut pas dire qu'il y a une forme qui est plus marquée que l'autre.
Et ça, à votre avis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait changer, justement, cette appellation de l'homme pour désigner homme et femme ?
Personnellement, je préfère les formulations inclusives. Je trouve que remplacer simplement les hommes par les femmes, c'est comme si en Afrique du Sud, au moment où on a aboli l'apartheid, on aurait plutôt que de l'abolir, décidé que dorénavant, ce serait les Noirs qui opprimeraient les Blancs et pas l'inverse. Je trouve que du point de vue civilisationnel, le gain est nul. Et du point de vue de l'entente des sexes, il est doublement nul.
Donc inclure plutôt que exclure, on vous comprend bien. Mais là, la démarche, elle a clairement une volonté de provoquer, de susciter le débat, c'est assumé par l'Assemblée de l'Université. Est-ce que vous avez l'impression, quand on regarde l'évolution de la langue française, que ce genre de provocation, de pavé dans la mare, a justement une chance de faire école?
J'ai les plus grands doutes. J'ai les plus grands doutes pour que la petite université de Neuchâtel en impose à tout le monde francophone. Et puis, je crois quand même que ce n'est pas très intuitif, malgré tout. On dit toujours que l'Académie française a imposé des choses. C'est complexe, parce que tous les grammairiens du XVIIe siècle disent qu'ils suivent l'usage. Malherbe, le grand poète qui, au début du XVIIe, a essayé de réglementer la langue classique, a dit qu'il voulait parler le même langage que les crocheteurs du bourreau au foin, donc des petits ouvriers de Paris. Alors, évidemment, si lui-même dit qu'il va plutôt suivre ce langage-là, ça veut dire qu'il ne veut rien imposer, et que ce langage s'imposerait par lui-même. De toute façon, l'évolution d'une langue est toujours quelque chose de très mystérieux. Après coup, on peut toujours dire « Ah ben c'est logique, ça a évolué comme ça », mais sur le moment, on se trompe presque toujours. Au début du XXe siècle, on était persuadé que les formules en « c'est-y pas vrai, c'est-y pas ça » allaient l'emporter dans la langue. Raymond Queneau a écrit dans les années 30 des articles pour dire que ce serait le cas. 40 ans plus tard, Queneau a quand même eu l'honnêteté de reconnaître qu'il s'était trompé. Mais il a trouvé un coupable, ou une coupable, c'est la télévision. Il a dit « Ben voilà, la télévision a freiné l'évolution du langage, mais s'il n'y avait pas eu la télévision, je pense que j'aurais quand même eu raison. » Comme quoi, les prophètes sont souvent assez vexés d'avoir eu tort.
Donc c'est les médias qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer aujourd'hui pour...
Absolument. Les médias ont souvent un rôle régulateur. Alors, évidemment, mais encore une fois, on ne sait pas exactement comment évoluent les choses. Tout d'un coup, un journaliste, un politicien, ou un obscur type au fond d'un bistrot a une trouvaille géniale, invente un mot comme ça, et tout d'un coup, ce mot, on ne sait pas pourquoi, se met à faire florès. Il en est de même de toutes les expressions, de toutes les locutions qui finissent par s'imposer dans la langue. On ne sait pas comment elles arrivent.
Donc, à bien vous comprendre, la démarche de l'université de Neuchâtel a le mérite de provoquer, si elle a l'intention de décréter, elle n'a aucune chance de succès.
J'en doute. Mais je pense que, puisque nous en parlons ici, c'est que le premier but est en tout cas réussi.
Puisque vous êtes venu nous en parler, Alain Corbellari, en tout cas, on vous remercie infiniment pour cet éclairage donc, sur cette volonté de l'université de Neuchâtel de féminiser ses statuts. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt dans Place Publique.
Merci beaucoup.
Place publique.
Comment favoriser le développement et la prospérité du Jura bernois ces 10 prochaines années? Eh bien, pour répondre à cette question, la Chambre d'économie publique a initié une vaste réflexion stratégique en fédérant tous les acteurs économiques et institutionnels qui font la région. Premier résultat de cette démarche inédite, puisque c'est la première fois que ça se passe, un document intitulé « Vision 2030 » et dévoilé récemment au public. On y trouve l'affirmation d'une volonté commune de développer le Jura bernois avec un catalogue d'intentions pour parvenir à ce but. Alors pour en parler, on a le plaisir d'accueillir par téléphone Patrick Linder. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors avant d'en dire plus sur les intentions, un mot quand même sur la démarche. Mettre tout le monde d'accord pour développer le Jura bernois, un signal fort, hein, dans une région qui a souvent fait parler d'elle pour ses dissensions, hein, notamment identitaires, liées à la question jurassienne.
Oui, il y avait une volonté de fournir des éléments d'intelligibilité, de compréhension, aussi d'harmonisation. C'est vrai que peut-être qu'il faut pointer le manque de vision commune pour des raisons qui se comprennent bien. Cette région ayant plusieurs insertions, plusieurs pôles d'influence, il s'agissait de créer pour la première fois une plateforme commune qui permettait d'agréger toutes les représentations, donner un cap qui servirait de guide aux actions à mener, qui mènent vers une économie prospère qu'on souhaite pour 2030 à peu près.
Donc c'est allé à l'encontre d'une certaine aussi mentalité de minorité au sein d'un grand canton.
Alors plutôt que aller à l'encontre d'une minorité qui est un fait, clarifier plutôt les espaces d'insertion du Jura bernois, partie francophone du canton de Berne. C'est vrai que c'est un grand canton dans lequel les francophones ne sont pas majoritaires, mais c'est aussi rappeler qu'il y a des interactions et des synergies à trouver avec l'agglomération bilingue de Bienne, aussi dans l'arc jurassien industriel, qui reste un espace de projet tout à fait pertinent vu la parenté et l'homogénéité structurelle qui réunit le Jura bernois aux autres espaces de l'arc jurassien, amener un propos qui permet de clarifier les multiples insertions de cette région.
Alors cette impulsion d'imaginer le développement futur du Jura bernois, elle vient de vous, de la Chambre d'économie publique, des milieux économiques, elle vient pas du politique a priori, même si ils la soutiennent. Est-ce que ça veut dire que la politique ou les élus ne font pas leur travail ?
Bon, disons qu'il y a un diagnostic qui était fait de longue date de notre côté, de la nécessité de donner des éléments de vision qui permettent justement de regarder un peu plus loin, d'agréger les démarches qui sont existantes mais parfois un peu désynchronisées. L'avantage dans la société civile pour une institution par exemple comme celle que j'ai le plaisir de diriger, qui, rappelons-le, est la représentante légitime de l'économie régionale en groupant entreprises, communes et associations, mais aussi une donneuse d'impulsion, eh bien, c'est de prendre ses responsabilités et peut-être de créer des brèches dans des murailles qui pouvaient paraître par moments infranchissables.
Alors, regardons maintenant l'avenir du Jura bernois. Le Jura bernois qui, on le sait, brille par son industrie, même si le Francfort l'a mise à rude épreuve ces dernières années. Comment cette industrie doit évoluer selon vous ? Comment elle doit maintenir une activité forte dans le Jura bernois ?
Oui, dans, je dirais, le noyau incompressible qu'est la vision 2030 qui est proposée par la Chambre d'économie publique du Jura bernois, le secteur secondaire occupe sans surprise une place centrale. C'est la meilleure option de développement de l'économie régionale à vue de 20-30 ans. En tout cas, rappelons que c'est un emploi sur deux dans le Jura bernois. À ce titre-là, c'est probablement un des espaces industriels les plus denses au sein de l'arc jurassien, une des régions les plus industrielles de Suisse. Il y a aujourd'hui une série de mutations en cours dans le secteur secondaire, des enjeux cruciaux qui attendent cette région, puisque la réussite de ces mutations peut lui permettre de s'inscrire de manière durable comme une région de technologie.
Patrick Linder, certains évoquent ou peignent le diable sur la muraille en disant attention à la désindustrialisation. Vous dites non, dans 10 ans, si on doit imaginer le futur du Jura bernois, c'est avec et avant tout avec son industrie.
Oui, absolument. C'est le moteur historique de son développement. Les discours alarmistes arrivent à chaque changement de régime de productivité. Les historiens savent bien que le diable a été peint sur la muraille le jour où la mécanisation de la production a fait son apparition dans l'horlogerie. Plutôt que d'ouvrir le pain de la bouche des travailleurs de la région, ça a généré toute une industrie de la machine-outil qui a elle-même généré toute une industrie de la sous-traitance. Pour le plus grand succès de cette région, il faut donc percevoir ces changements de paradigme de production comme des opportunités. On est extrêmement satisfait de constater que dans cette région, il y a toute une série d'acteurs qui sont admirablement positionnés en termes de compétitivité internationale pour tirer leur épingle du jeu.
Alors cette vision 2030 du Jura bernois imagine aussi des évolutions au niveau de la gouvernance en rendant les structures de décision plus efficaces. À ce titre, on imagine que la simplification du paysage des associations de communes, par exemple en une seule entité, avec la création de JB.B, va dans le bon sens. Ça a été annoncé ces derniers jours.
Mais c'est en tout cas une nouvelle qui s'inscrit complètement dans la logique de ce qui est préconisé dans un des axes de cette stratégie économique. Elle en compte 8. Il y a une volonté de contribuer à une espèce de déficience de l'organisation régionale. C'est un pas qui va dans cette direction. Il y a d'autres démarches qui devront être menées, mais il est réjouissant de voir que du côté des communes et du côté du monde politique, le diagnostic converge avec ce qui est préconisé en termes de efficience et de bonne organisation.
Alors du côté de la principale commune du Jura bernois, après Moutier, soit Saint-Imier, on se réjouit bien sûr de cette vision 2030, tout en défendant un développement qui ne se limite pas au périmètre du canton de Berne. On écoute à ce sujet le maire de Saint-Imier, Patrick Tanner.
En tant que commune du Haut-Vallon, on a un espace fonctionnel qui est plutôt orienté en direction des montagnes neuchâteloises, historiquement et même culturellement, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, les collaborations avec Bienne, qui sont aussi importantes, qui est un centre important, notamment au niveau ferroviaire, au niveau aussi de la formation. Mais je pense que quand on parle d'économie, la notion de frontière, la notion, elle perd finalement toute son importance, puisque l'économie, et d'autant plus l'économie qui existe dans le Jura bernois, regarde bien au-delà des frontières cantonales, voire même bien au-delà des frontières nationales, pour ce qui est notamment des fleurons horlogers qui sont présents dans notre région.
Ça veut dire, Patrick Tanner, que si on parle de l'avenir du Jura bernois, ça dépasse le cadre cantonal du canton de Berne?
Alors, de mon point de vue, bien sûr, parce que si vous prenez rien que la carte géographique du Jura bernois, vous constatez que d'un côté, vous avez une frontière cantonale neuchâteloise, de l'autre côté, vous avez une frontière jurassienne. Donc, bien évidemment que l'existence du Jura bernois se fait à travers l'arc jurassien, tout en étant conscient que, du point de vue cantonal, du point de vue de l'appartenance cantonale, le Jura bernois s'inscrit aujourd'hui clairement dans le canton de Berne, avec les lois et avec, finalement, le dispositif politique du canton de Berne. Je ne pense pas que c'est un problème pour une région comme le Jura bernois de rayonner tout autant au sein de l'arc jurassien que du canton de Berne en tant que, finalement, région francophone et puis région pont entre deux régions linguistiques.
Patrick Linder, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Le Jura bernois, ce n'est pas seulement une partie du canton de Berne.
Mais c'est une complexité que tâche de formaliser cette stratégie économique 2030 du Jura bernois en disant qu'il y a des espaces de projet, il y a une appartenance institutionnelle qui est incontestable, il y a une priorité à créer des relations avec des villes importantes Bienne, mais il y a aussi une pertinence à collaborer et à créer des projets à l'échelle d'un espace polymorphe, mais c'est celui de l'arc jurassien dicté par une homogénéité industrielle. À ce titre-là, les constats du maire de Saint-Imier sont absolument pertinents et s'inscrivent dans la logique qui est défendue dans la stratégie économique régionale. Rappelons également que cette région a une tradition d'ouverture de plus de 2 siècles. Il est vrai que les horlogers ont vite pris leurs valises pour essayer d'aller vendre des montres à l'étranger. C'est une économie qui est de longue date connectée au grand marché mondial.
Et puis il y a la nécessité de, certes, s'arrimer à Bienne, qui est un centre important de la région, aux portes de la région, sans devenir pour autant une banlieue.
Non, et c'est d'ailleurs, je dirais, un des premiers mouvements tactiques qui est ambitionné avec cette grande clé de lecture qui est proposée. C'est avant tout de favoriser une région qui est unie, cohérente, reconnue en tant que telle. Ce sera un acteur crédible pour les relations à créer avec Bienne, mais également les relations à entretenir dans le cadre de l'arc jurassien. Une région bien organisée sera bien mieux entendue que si elle affiche de la désunion.
Bien organisée, ça veut dire par exemple plus de fusions de communes, ça veut dire des entités administratives plus claires. On parlait des maires des communes de la région qui se fédèrent en une structure plus lisible. Est-ce qu'il faut pousser davantage les structures politiques à se réformer?
Mais on constate en tout cas que c'est la tendance actuelle en matière d'efficience. Si ce n'est pas par la fusion, c'est du moins par la collaboration, création de structures conjointes, de syndicats, de visions qui permettent de faire converger une région et de la faire parler d'une voix unique.
Alors s'il est un secteur économique qui peut contribuer au développement du Jura bernois tout en recueillant les fruits de ce développement, c'est bien Jura bernois Tourisme. Et autant dire qu'il s'est fait pas mal de choses dans ce domaine depuis plusieurs années. On va noter la création du parc naturel régional de Chasseral, l'essor de la fête de la tête de moine, ou encore la nouvelle attraction qui cartonne chez Camille Bloch avec son centre visiteur. Mais malgré tout, Guillaume Davot, directeur de Jura bernois Tourisme, estime que le potentiel de développement est encore bien réel.
Nous devons continuer de développer des produits touristiques. Le produit touristique reste le meilleur marketing finalement pour le client. On doit clairement aussi soutenir l'amélioration de l'hébergement et la mise en place de nouveaux types d'hébergement dans la région. C'est ce qui fait défaut actuellement. La plus-value économique touristique réside en particulier dans la nuitée et la restauration du soir. Donc on voit que si on veut développer le Jura bernois d'un point de vue touristique, il faut développer cette question de l'hébergement. Et puis mettre en avant ce côté qui est quand même très particulier de notre région, une région très industrielle, mais dans un cadre naturel qui est vraiment respecté et valorisé. Et puis ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on peut se positionner à l'avenir.
Vous parlez du Jura-Bernois comme une région industrielle, on pourrait presque dire un peu industrieuse, à la réputation taiseuse. Est-ce que vraiment ça, c'est compatible avec la volonté de se vendre et de se tourner vers l'extérieur?
Oui, alors ce caractère, il n'est pas propre au Jura-Bernois. Finalement, c'est l'ensemble de l'arc jurassien hein, qu'on pourrait définir comme ça. Ce caractère, on doit le valoriser. Il est là, il faut pas le renier. C'est finalement aussi, ça peut être une force. Par contre, on doit surpasser ce manque de volonté un petit peu commerciale et oser se mettre en avant. Nous avons de nombreux atouts à divulguer. Et pour cela, l'amélioration des collaborations entre les partenaires privés, institutionnels et politiques est de mise pour se mettre en avant et rayonner de manière positive.
Le tourisme comme domaine économique se joue bien sûr des frontières. Est-ce que vous pensez que le Jura-Bernois, avec ses dissensions politiques liées à l'appartenance cantonale, est mûr pour un tel projet, pour se fédérer?
Alors il est clairement mûr. Et pour nous, finalement, ces dissensions politiques ne nous atteignent que peu, dans le sens où les collaborations avec nos collègues de Jura Tourisme sont existantes depuis de nombreuses années. Nous renouons aussi, depuis quelque temps, des très bonnes collaborations avec Tourisme Bienne-Zéland. J'aime toujours dire que le touriste se fait fi des frontières. Donc, d'un point de vue organisationnel, ces dissensions politiques ne nous touchent pas du tout.
Patrick Linder, donc le Jura-Bernois peut exister, en tout cas au niveau touristique, autrement que dans le récit habituel de la question jurassienne, des dissensions, etc. Il y a vraiment un véritable enjeu à ce que le Jura-Bernois soit vendu, c'est le terme, au-delà des frontières.
Mais il existe de fait déjà, c'est aujourd'hui la notoriété qui a amélioré à construire autour de cet état de fait. Il faut quand même préciser que c'est une région qui dispose d'un certain nombre d'ambassadeurs de poids, de taille. On peut penser à l'horlogerie, on peut penser à la gastronomie avec les chocolats Camille Bloch, des entreprises également qui sont des spécialistes dans leur domaine, qui sont reconnues dans le monde entier. C'est de gros arguments pour le développement d'une offre touristique qui est centrée vers les spécificités de modalités de développement économique qui sont propres à cette région. Un équilibre subtil entre activités high-tech qualifiées, on a dit un emploi sur deux dans le secondaire dans la région, dans un cadre naturel qui est préservé et valorisé, des possibilités aussi d'optimiser l'utilisation de l'énergie, puisque la région a une forte sensibilité en matière d'énergie renouvelable. On pourrait, pourquoi pas, imaginer à l'avenir une région quasiment autonome d'un point de vue énergétique qui donnerait un message d'équilibre et d'éco-responsabilité pour toutes les activités industrielles. Ça ne pourrait que rejaillir sur la perception touristique qu'on pourrait défendre.
Merci beaucoup Patrick Linder d'être venu dans Place Publique. Vous êtes le directeur de la Chambre d'économie publique du Jura-Bernois. À l'initiative de cette vision 2030 pour le développement de la région, on se réjouit bien sûr d'en voir les fruits et on vous souhaite bien sûr plein succès dans vos démarches. Bonne soirée et à bientôt.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.